va continuer notre série de méditations sur les qualités bibliques. On avait vu la semaine dernière qu'il y a une différence entre le fruit de l'esprit et les qualités qui sont dans la Bible et auxquelles nous sommes appelés à aspirer, à rechercher. On va pas forcément revenir, et c'est pour ça que je me suis permis cette petite explication, mais le fruit de l'esprit se développera selon notre communion, notre intimité avec le Seigneur, et plus nous serons proches du Seigneur, plus nous connaîtrons cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur, plus le caractère de Christ va grandir en nous, amour, patience, douceur, etc. Mais la Bible nous parle de qualité. Elle nous parle de piété, elle nous parle de justice, elle nous parle de vertu, elle nous parle de sagesse, elle nous parle d'intégrité. Il y a des qualités qui sont là dans la Bible, qu'on va découvrir à fur et à mesure, qui ne sont pas le fruit de l'esprit, mais qui sont des objectifs, des recherches. On avait pris l'exemple d'une maison en construction. Les fondations, ce serait quoi ? C'est le sacrifice de Jésus, c'est la fondation de notre vie spirituelle. Il est mort à la croix pour ôter nos péchés. Après, la structure, les murs porteurs, ça c'est le fruit de l'esprit qui est en nous. Mais qui habiterait dans une maison comme ça ? Personne. Il faut aussi l'aménagement, les fenêtres, les portes, tout le nécessaire pour vivre dedans. Et ça, ce sont les qualités. Et nous sommes appelés non pas à être en milieu de construction, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes parfaits. Et le mot parfait dans la Bible veut dire accompli, complet. Et certains s'arrêtent dans leur vie spirituelle, ils ont rencontré le Seigneur Jésus, ils ont le pardon de leurs péchés, ils s'arrêtent là, ils sont aux fondations. C'est pour ça qu'il leur manque de la consistance, il leur manque même du sens à la vie. Ils viennent à l'église, mais ils sont inachevés. Certains réclament le fruit de l'esprit, alors ils ont raison. Mais le fruit de l'esprit, c'est pas suffisant. Le Seigneur a des projets. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, semblables à qui ? À Jésus. Jésus n'avait pas que le fruit de l'esprit. Et il reflète dans sa vie, on va développer ça évidemment, des qualités que nous sommes appelés à rechercher. Et ces qualités-là ne viennent pas d'elles-mêmes, nous devons les rechercher. Là aussi, nous aurons l'occasion de développer cette pensée. La semaine dernière, nous avions donc commencé à réfléchir sur la notion de la sagesse. Celui qui me trouve, c'est la sagesse qui parle, a trouvé la vie. On avait mis en évidence que pour trouver, il faut chercher. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Nous allions continuer en nous posant cette question. Mais quelle sagesse ? Parce que Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18, nous donne la définition de la sagesse. Il nous parle de la sagesse de Dieu, la sagesse du ciel. Il la définit ainsi avec les mots de pureté, de paix, de modération, de conciliation, pleine de miséricorde, de bons fruits, sans hypocrisie. Sans parti pris. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Qui l'oppose à quoi ? À la sagesse d'en bas. Parce qu'il y a une sagesse d'en bas. Et cette sagesse d'en bas, c'est elle qui cherche beaucoup à nous influencer. Elle, par contre, elle suscite des rivalités, des disputes, des contraintes, des désordres. Alors, nous avions vu quelques sujets, justement, où quelle sagesse est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui m'influence ? Est-ce que c'est la sagesse d'en haut ou est-ce que c'est la sagesse d'en bas ? Alors nous avons vu par rapport à la gestion financière. Est-ce que je suis celui qui me préoccupe ? Alors pour moi, vous aurez le temps de relire les références. Est-ce que je fais partie de celui qui me préoccupe ? Je me soucie, je me fais du tourment pour m'enrichir ? Ou au contraire, est-ce que j'ai la sagesse divine qui est celle du contentement et de la grâce ? Dans la gestion de mon temps, est-ce que je prends conscience que le quatrième commandement qui me demande de savoir me poser une journée dans la semaine. Ce n'est pas seulement la journée qui importe, mais la mentalité. Savoir s'arrêter, considérer les choses. Arrêter d'être toujours dans l'activisme. La qualité dans nos relations. Ce n'est pas se dire être sage que l'on est sage. Ce n'est pas en discutant qu'on est sage. Mais ce qui marque la sagesse de quelqu'un, c'est la relation de paix, de miséricorde, de patience. Ça, c'est à cela qu'on voit la sagesse de quelqu'un. Et pas celui qui parle beaucoup, d'ailleurs, dans nos raisonnements. J'aime bien le proverbe 18.2 là, qui dit que l'insensé prend plaisir à ses propres raisonnements. Mais on en connaît comme ça, des gens, ils sont capables de faire des grands discours. Ah oui, ça, ils aiment s'écouter. Mais leurs œuvres montrent que ils ne sont pas sages. Et on avait vu aussi que la vraie sagesse, la sagesse biblique, la sagesse de Dieu, ça se voit. Il n'y a pas de sévérité, il n'y a pas de dureté. Le visage et la sévérité de sa face est changée. La sagesse d'un être éclaire son visage et adoucit ses traits. Dans la sagesse divine, il y a cette paix, il y a cette joie, il y a cette simplicité, il y a cette intégrité, il y a cette légèreté. Pas cette superficialité, mais cette légèreté de cœur. Ça, c'est de la sagesse. La sagesse qui impose, la sagesse qui dure, la sagesse qui impose, la sagesse qui brise. Ça, c'est pas de la sagesse. En tout cas, c'est pas de la sagesse d'en haut, mais c'est la sagesse terrestre, diabolique, nous dira même Jacques. Alors, ce matin, on va voir quelques exemples. Parce que la sagesse, à elle-même, ne suffit pas. Il faut rechercher la sagesse. Il faut rechercher avoir cette intégrité. Il faut rechercher avoir cette intelligence. Mais il y a quelques exemples dans la Bible qui nous font quand même réfléchir. Alors, je vous invite à lire dans 1 Roi. Ah, je me suis trompé dans les références, mille excuses. 1 Roi, chapitre 3. Bon, c'est l'exemple le plus connu, l'exemple de Salomon. Comment parler de la sagesse sans parler de Salomon, dites-moi. Mais il y a quand même un exemple qui est très troublant chez cet homme. 1 Roi, chapitre 3. Verset 1er. Alors le verset 1er, c'est pour permettre une compréhension après. Mais c'est pour éviter de retourner les pages et de refaire une lecture dans ce chapitre. 1 Roi, chapitre 3, verset 1er, il est écrit « Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David. » Continuons la lecture à partir du verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une très grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Il parle de lui-même. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, parce que c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Effectivement, Salomon a été un homme incroyable en sagesse. Mais tournons quelques pages et allons au chapitre 11. Entre deux, Salomon accomplit son règne. Si vous voulez voir quelques-unes de ses œuvres et de ses écrits, vous avez le livre des Proverbes. Et voilà ce qu'il est écrit au chapitre 11, verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, vous comprenez pourquoi on l'a lu tout à l'heure. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, car elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, le pauvre. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Continuons la lecture à partir du verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi. » Amen. Amen. Salomon. L'exemple de Salomon. On parle de sagesse, on dit qu'il faut rechercher la sagesse, l'intelligence, le discernement. Mais voilà que celui qui a reçu une intelligence extraordinaire, lui-même a fini tristement. Tristement. Quelle leçon à retirer de cela ? Ce qui est étonnant, c'est que la réponse et la leçon à en tirer, Salomon l'a vécu. Il l'a lui-même écrit. Il nous est dit en Proverbe chapitre 9, verset 10, entre autres, mais c'est dit plusieurs fois, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Nous devons rechercher la sagesse, mais la sagesse commence par avoir la crainte de l'Éternel, la crainte de pécher, la crainte de nous détourner de ses voies, la crainte de faire autre chose que ce que Dieu nous demande de faire. La sagesse ne nous dispense pas de l'obéissance à la parole. On peut avoir de l'intelligence, on peut avoir du discernement, mais si notre intelligence et notre discernement nous fait faire autre chose et nous oblige à prendre des sentiers dont le Seigneur nous demande de ne pas prendre, alors nous ne sommes pas dans la sagesse d'en haut. Nous sommes peut-être avec une sagesse, nous avons peut-être un capital de sagesse, mais nous sommes en train de prendre un chemin de travers. C'est vrai. Le problème de Salomon, c'est qu'il a confondu la paix et le compromis. On a vu qu'effectivement, ce qui détermine la sagesse, le critère de la sagesse, c'est que ça communique la paix. Ça communique la paix. Dès que nos réactions, nos attitudes ne provoquent pas la paix, ne suscitent pas la paix, c'est que nous sortons de la sagesse d'en haut. Mais Salomon, lui, il a confondu la paix et le compromis. Pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec autant de femmes ? Ah, c'était une stratégie politique et militaire. En s'alliant effectivement une première fois avec la fille du pharaon, il s'est dit, c'est pas Pharaon qui va venir attaquer Israël, il y a sa fille chez nous. Et c'est ainsi qu'il y avait cette coutume, cette habitude de créer des contrats de paix en s'unissant par mariage. Mais oui, vous n'allez pas attaquer la famille chez qui vous avez donné vos enfants. Alors avec l'Égypte, ça va, c'est un mariage. Le problème, c'est effectivement le nombre de mariages qu'il a fait ainsi. Avec des peuples effectivement étrangers. Et Dieu avait dit non. Vous ne ferez pas ce genre de stratégie. Vous ne prendrez pas des femmes étrangères. Parce que tôt ou tard, ces femmes étrangères viendront avec leur Dieu. Et ça tournera au mal. Vous tourneront votre cœur vers ces dieux-là. Et Salomon, dans sa grande sagesse, dans cet esprit de paix, de réconciliation, de tolérance, mais non, pas de problème. Si, problème. Parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors on a beau être sage, on a beau être intelligent, on peut se dire, oui, mais moi j'ai de l'expérience, oui, j'ai la maturité, oui, mais moi c'est pas pareil. Combien de fois est-ce que j'ai entendu ça? Ah oui, mes frères, moi c'est pas pareil. Ah oui. Mais si, c'est pareil. Parce que devant la parole de Dieu, on est tous les mêmes, tous. Tous. Qu'on soit jeune converti ou anciennement dans la foi, nous sommes tous, par rapport au péché, sur le même niveau, par rapport à la sanctification, au même niveau, par rapport à la grâce de Dieu, au même niveau. Il n'y a pas de différence. Notre vie dépend de notre obéissance à la parole de Dieu. La sagesse, l'exemple de Salomon, doit nous tenir en éveil. Car même si un jour, nous avons beaucoup de sagesse, et je souhaite à chacun d'entre nous d'être rempli de cette sagesse, cela ne nous devrait jamais nous abstenir de l'obéissance à la parole de Dieu. Jamais reconsidérer nos voies par rapport à la parole de Dieu. La sagesse de Dieu obéit à la parole de Dieu. La sagesse de Dieu obéit à la parole de Dieu. Un autre exemple ? L'exemple d'Achitophel. Vous connaissez celui-là ? Il est un peu moins connu, Achitophel. Mais lisons 2 Samuel, chapitre 16. Vous allez voir que lui aussi, quand même, c'est assez époustouflant l'intelligence que cet homme a. Achitophel, 2 Samuel, chapitre 16, a été pendant de nombreuses années un conseiller du roi David. Et pendant la vieillesse de David, un de ses fils a fait un coup d'état et il a pris les mêmes conseillers que son père pour quelques-uns. Et notamment, il y avait dans le staff, dans l'équipe de conseil de David, un monsieur qui s'appelait Achitophel. Et en lisant 2 Samuel chapitre 16 verset 23, il est écrit « Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si on avait consulté Dieu lui-même. Et il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. » Incroyable, non ? Cet homme, dès qu'il ouvrait la bouche pour donner un conseil, mais on savait que c'était le conseil juste. On savait que c'était vrai. On savait que si on suivait son conseil, c'était comme si c'était Dieu lui-même qui avait parlé, qui avait donné une parole de sagesse. D'ailleurs, je vous rappelle que ça fait partie des dons de l'esprit, ça. Paroles de sagesse. Ces paroles qui sont données et qui tracent un chemin, qui donnent la compréhension, qui donnent une direction, qui donnent une solution dans les situations. Et Achitophel était de cet homme-là. C'était pas une fois de temps en temps, il avait quelques bons conseils. Nous, ça nous arrive d'entendre donner quelques bons conseils, n'est-ce pas ? Mais on en donne aussi pas mal qui sont pas forcément les meilleurs. Achitophel, non. Quand Achitophel parlait, c'était aussi exact, aussi précis que si c'était Dieu lui-même qui parlait. Lisons le chapitre d'après, le même verset, 2 Samuel, chapitre 17, verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Il s'est pendu, ce gars-là. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Incroyable ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais on a compris. Il était blessé à mort, ce gars-là. Vexé. Vexé. Je sais que mon conseil est vrai, il est juste. Depuis toujours, je vais toujours donner les meilleurs conseils. Oui, mais aujourd'hui, Achitola, on ne va pas suivre ton conseil. Ce gars-là, il ravale sa salive, il rentre chez lui, il va dans son grenier, et il se pend. C'est terrible, non? Un homme qui avait une telle sagesse, qui voudrait pas avoir des conseils comme ça? Faisons attention. Parce que ça, c'est le venin de l'orgueil. La sagesse, si demain nous avons la sagesse de Dieu, ne nous prenons pas pour, je sais pas, pour des gens à qui on n'a plus rien à dire. Ne croyons pas que nous soyons au-dessus des autres. La sagesse que Dieu peut nous donner ne doit pas nous mettre au-dessus des autres. Sinon, nous allons être continuellement dans la frustration. Et on peut connaître différentes situations. Nous pouvons un jour peut-être avoir raison, mais les gens ne nous suivront pas. Alors d'ailleurs, c'est exactement le cas de cette situation. Si vous lisez la chose à la maison, en fait, le conseil d'Achitophel était juste. Mais il nous est dit que c'est l'Éternel qui a voulu tromper les plans d'Achitophel, parce que Achitophel ne travaillait pas pour la volonté de Dieu. Et Dieu, qui est souverain, a mis un arrêt, et c'est pour ça que c'est un autre conseil qui a été suivi. Mais son conseil était bon. Et il nous arrivera, mes bien-aimés, d'avoir de bons conseils, d'avoir la sagesse, de savoir ce qu'il faut faire. Et de savoir que c'est exactement ça, que c'est le chemin qu'il faut prendre. Nous allons peut-être avoir la conviction spirituelle, mais peut-être que les gens ne vous suivront pas. Vous allez faire quoi? Vous suicider? Bah si c'est comme ça, j'arrête tout? Non! La sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, n'est pas faite pour nous glorifier nous-mêmes. La sagesse d'en haut n'est pas faite pour que les gens nous regardent et nous applaudissent. Ah, mais comme tu es extraordinaire, comme tu es intelligent, peut-être que les gens nous cracheront à la figure malgré que notre conseil soit juste et vrai. Mais ce qui importe dans notre vie, dans notre sagesse, c'est de marcher sous le regard du Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être honoré. Amen. Même si on sait que c'est ça que l'on doit faire, si les autres ne suivent pas, Seigneur, moi je veux faire ce que toi tu me demandes de faire. Qu'importe si on est suivi ou si on n'est pas suivi. Ça n'a pas coûté cher à Jésus. Jésus a payé le prix fort à ce niveau-là. Ne soyons pas de ces orgueilleux. Nous avons le droit d'avoir de vraies réponses. Et les gens ont le droit de ne pas nous suivre. Ne soyons pas vexés comme des poux. Ne commençons pas à juger les gens parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. Les gens ont droit de ne pas être d'accord avec vous. Les gens ont droit de ne pas être d'accord avec nous. Mais que nous puissions retirer de notre cœur toute forme d'orgueil, de rébellion, de méchanceté. Il peut aussi arriver, ce n'est pas le cas d'Achitophel, mais ça peut être le nôtre, que nous nous trompions. Être sage, ce n'est pas avoir raison à tout prix. Je crois que quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est aussi capable de reconnaître son erreur. Quelqu'un de sage, c'est aussi quelqu'un qui est capable de se remettre en cause. Être sage, c'est aussi capable de dire « Oh, bah tiens, j'ai un autre son de cloche et peut-être que celui-ci aussi, il faut l'écouter. » Ça, c'est de la sagesse. Être sage, ce n'est pas être orgueilleux et croire qu'on a toujours raison. Mais être sage, selon Dieu, c'est chercher à l'honorer. Chercher à accepter sa volonté. Accepter que les choses n'aillent pas dans le sens dont nous avons pourtant la conviction que c'est le désir de Dieu. Je ne suis pas sage parce que je suis estimé des autres. Je suis sage parce que je fais la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous apprenne, au travers de ces exemples, à discerner la sagesse d'en haut. J'ai marqué exemple d'actualité. On a commencé cette méditation la semaine dernière, donc il y a à peu près 10 jours. Il y avait un sujet d'actualité et je me suis dit, ah mais ça, c'est une très bonne illustration de la sagesse que nous devons avoir. Il y avait quelque chose qui m'irritait dans l'actualité et cette chose a changé. Alors ça va être l'occasion de développer le sujet sans faire de politique. Il y a une dizaine de jours, il y avait un sondage qui disait que 63% des Français refusaient l'accueil des migrants sur les territoires français. Depuis, ça a changé. On va revenir dessus. Pourquoi? Parce que la sagesse d'en haut n'est pas celle de la sagesse d'en bas. Et la sagesse d'en bas est manipulée par les médias. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, notre sagesse doit être influencée par la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Et ça, il a parlé de ça en accueillant les brebis. Quant au bouc, il leur a dit « J'étais étranger et tu ne m'as pas accueilli. » Et les deux étaient surpris, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Quand est-ce qu'on t'a... Sinon, on t'aurait pris. Mais si, si, si. Parce que toutes les fois que vous avez vu un étranger et que vous ne l'avez pas accueilli, c'est moi que vous n'avez pas voulu accueillir. Dans l'Ancien Testament, il y a la même logique. Parce que vous êtes vous-même été des étrangers, accueillez l'étranger. Il y a une dizaine de jours, il y avait cette vague de sagesse. Qui disent, mais c'est pas possible, on peut pas accueillir tous ces gens-là, vous vous rendez compte? Alors vous montrez des images avec des milliers de personnes concentrées sur votre écran, et vous aviez l'impression que ça se passait juste devant votre porte. Mais oui, 1000 personnes dans votre maison, ça va être un peu court. Ayons de cette sagesse et de cette intelligence, mes bien-aimés, je vous en supplie, ne nous laissons pas manipuler par les images. La preuve, c'est qu'une semaine après, on vous a montré une autre image et l'opinion a changé. La sagesse divine ne se laisse pas influencer par des images, par de l'émotion, par des discours démagogues, où on va jouer sur vos émotions, sur vos peurs, sur votre confort. Regardez comme sur ce sujet de l'actualité, nous sommes passés d'un rejet total à maintenant, il ne faut absolument pas dire que peut-être qu'il y aurait des problèmes à accueillir ces gens-là. Soyons des hommes et des femmes remplis de la sagesse, de miséricorde et de bonté et de compassion. Juste pour rassurer ceux qui ont peur de l'invasion. Ah oui, mais on ne peut pas accueillir tous ces gens-là. Juste un point de vue du chiffre, hein, c'est pas de la politique, c'est juste pour qu'on ait un petit peu de jugeote dans notre esprit. Les chiffres sont très aléatoires. Les politiciens vont vous parler de 150 000 personnes. Les chiffres sur le terrain disent que peut-être d'ici la fin de l'année, on devrait accueillir 300 000 personnes en Europe. Et bien sûr, les chiffres les plus excessifs vont parler jusqu'à 3 millions de personnes qui, dans les années à venir, intégreront l'Europe. Ok. Allez, on va tourner à 300 000. On n'y est pas encore. Et il y a des chances que ce soit à peu près ça. 300 000 personnes, ça représente quoi? 0,05% de la population actuelle en Europe. D'accord? C'est-à-dire que si demain l'Europe dit « Ah, on accepte 300 000 migrants chez nous », cela ne ferait qu'une augmentation de la population de 0,05% de la population. Est-ce que vous appelez ça une invasion? Alors, soyons intelligents, ayons de cette sagesse à ne pas fermer notre cœur. Soyons aussi de cette sagesse à ne pas nous laisser influencer. Bien sûr, c'est choquant, triste, désolant, chacun y mettra son mot plus adéquat, de voir un enfant mort sur la plage. Mais même si l'image devait être encore plus émotionnelle, notre sagesse ne devrait pas être conditionnée par les émotions. Notre sagesse doit être conditionnée par rapport à la parole de Dieu. Faisons attention, ne point être des pantins. Notre position doit être prise sur des positions bibliques, sur l'amour du prochain, sur l'accueil, sur le respect de l'humanité, sur la bonté. La sagesse doit être obéissante à la parole de Dieu. La sagesse doit nous détourner de notre propre orgueil. Mais la sagesse doit être également une sagesse de cœur, de compassion, d'accueil, de miséricorde. Faisons attention à ne pas nous laisser emprisonner par des peurs et par notre égoïsme. Le dernier exemple, et c'est forcément sur le bon que je voudrais terminer, c'est l'exemple de Jésus. Amen. Il est la sagesse même. Il est la sagesse incarnée. Si vous réfléchissez et si vous méditez sur la vie de Jésus, vous allez vous apercevoir qu'il a tout vécu, Jésus. Il a vécu toutes les souffrances, qu'elles soient physiques, morales, affectives. Il a connu le mépris, le mensonge, la violence. Il a connu le racisme, la calomnie. Il a connu le découragement, la fatigue, la faim, l'humiliation, l'abandon. Il a vécu toutes ces choses-là. Et prenez le temps d'observer ses réactions. Vous y trouverez là de la sagesse. Dans toutes ces situations, Jésus a incarné la sagesse. La sagesse, ça se voit. Il nous est même dit en Matthieu chapitre 11, verset 19, que la sagesse a été justifiée par les œuvres. La sagesse a été justifiée par les œuvres. Prenons exemple sur Jésus. Il est notre modèle. Il est celui qui peut nous donner de grandir dans ce renoncement, de grandir dans cette recherche de l'intelligence, dans cette recherche du discernement. On avait déjà terminé sur ce verset la semaine dernière, mais évidemment j'écourte tout ça. Mais Jacques 1, chapitre 5 nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Car Dieu est celui qui veut que nous grandissions dans cette sagesse. Il veut que nous acquérions cette sagesse, cette intelligence céleste. Car Dieu est celui qui va nous la donner tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais regardez un peu le fil conducteur. La sagesse, ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Il faut la chercher. Il faut la réclamer. Il faut la travailler. Il faut la remettre sur l'étalon de la parole de Dieu. Combien même est-ce que demain vous seriez très sage? Rien n'est acquis. C'est une qualité que l'on doit développer, enrichir et adapter en fonction des circonstances. Amen.